Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sebastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Bienvenue à tous, c'est notre été en balado. Hein?
On est en culotte.
On commence
courte.
Ça. On
est en mode estival.
En fait, dans mon cas, c'est vrai, je suis en culotte courte aujourd'hui.
Moi aussi, écoute. Alors, il fait beau, là.
Alors, bienvenue à tous à cette version estivale de Ça tient la route. On n'aura pas moins d'informations à vous donner. Au contraire, on a beaucoup de choses. On fait ça en mode un peu plus festif. Puis là, on n'a pas les contraintes d'être bloqué par un temps, ouais, un temps d'antenne à la radio. Donc, on
se
gâte
un peu en numérique.
Un peu en numérique. On le fait comme ça. Puis aujourd'hui, pour changer un peu le rythme, on va commencer avec notre invité de la semaine. On va aller aux actualités puis à nos essais par la suite. Alain, qu'est-ce que tu en essaies, toi, cette semaine?
J'ai une... Je vais dire une... Okay. Pas dire une déception, parce que ça serait un peu...
Entendre ton soupir.
Ouais, c'est ça. J'ai conduit une Elantra N.
Oui.
N pour sport. À la maison, on a fait le gag, parce que personne ne sait d'où vient le N chez Elantra, mais en tout cas, on a une idée.
Je pense que les gens d'Hyundai sont pas sûrs non plus. C'est un autre circuit, apparemment, là. En tout cas, bref.
Ouais, mais ça se veut, l'espèce de GTI, dans le fond, de Hyundai. Puis ça arrive à un moment où l'Elantra a jamais été aussi énorme. En tout cas, bref, il y a du bon et du moins bon, puis j'ai essayé ça, fait qu'on en parlera tantôt, vous allez voir.
Parfait.
C'est intéressant.
Puis moi, je reviens du lancement du Cadillac Lyrique.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Et c'est vraiment intéressant, mais ça aussi, je vais vous en parler tantôt, on va avoir nos actualités. Mais aujourd'hui, on commence l'émission avec une tradition au Québec qu'on avait un petit peu perdue. Évidemment, la pandémie oblige, on a perdu un certain nombre d'événements au Québec, mais on revient cette année avec ce qu'on appelle le concours d'élégance, les voitures de Chambly, qu'on appelle les beautés mobiles, en fait. Et ce prestigieux concours-là est là depuis des années. C'est un des plus courus à travers le Québec. Et pour en parler avec nous, on a le vice-président de Voitures anciennes Québec, M. Léo Gravel. Bonjour, M. Gravel.
Bonjour, M. Charrette.
Ah ben merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, parlez-nous un petit peu de ce retour, si on veut, de voitures anciennes du côté de Chambly, parce que c'est un concours qui est très couru.
Oui, en effet, c'est notre 29e édition. Donc, ça fait une tradition qui est bien ancrée là, pour les gens de la région de Chambly et ceux de l'extérieur, naturellement. Mais le concours d'élégance se tient au parc adjacent au Fort Chambly. Donc, c'est un merveilleux endroit.
Ah, sur le bord de l'eau, effectivement, oui. C'est très, très beau.
Ah oui, puis pour les voitures anciennes qui sont photographiées ou qui sont stationnées sur le bord de l'eau, ça fait vraiment un bel environnement.
Moi, ce que j'aime bien de cette exposition-là, c'est que c'est une exposition qui s'adresse aux voitures authentiques, non modifiées. Donc, on respecte l'époque de la voiture et si restauration il y a, parce que évidemment, des voitures qui ont cet âge-là, on a travaillé dessus, mais il faut que ce soit fait comme on l'aurait fait à l'époque.
Dans l'esprit, ouais.
Oui, c'est ça. C'est la seule exposition au Québec là, où est-ce qu'on tient mordicus à ce que les voitures soient d'origine. Il y a beaucoup d'autres expositions qui ont lieu au Québec, puis chacun organise sa petite rencontre. Mais celle à Chambly, on y tient mordicus. Pas parce qu'on est capable de compétitionner avec des gros concours d'élégance tels que Pebble Beach puis d'autres aux États-Unis. On n'a pas cette envergure-là. Mais certainement du point de vue classe, point de vue prestige un peu, mais on veut qu'on maintenir ce genre d'attachement à des voitures qui sont bien présentées, qui ne démontrent pas de changement excentrique, là, de, que ce soit des roues chromées de, d'une autre époque ou du rechromage de pièces qui n'auraient pas dû l'être à l'époque. Alors vraiment, on s'en tient à l'origine et puis qu'est-ce qui fait l'attrait de Chambly?
Là, évidemment, cette année, on va avoir un événement spécial parce qu'on va célébrer les 100 ans de Jaguar et de Lincoln. Donc, 1922 dans les deux cas, évidemment. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'on va faire? Quel genre d'événements ou d'activités spéciales qu'on va avoir qui vont entourer l'anniversaire de ces deux compagnies-là?
Mais oui, mais à chaque année, le fait qu'on essaie d'avoir une voiture vedette, puis naturellement, comme le 21e siècle progresse, on a toujours des voitures là, qui sont apparues sur le marché il y a 100 ans. Donc cette année, c'est autour des Lincoln et Jaguar. On va en avoir quelques exemplaires qui proviennent de collections privées, qui vont être placés donc sous chapiteau. Il y a un monsieur qui va fournir trois Lincoln, une 1938, une 48 et une 53. Et un autre monsieur, lui, qui va avoir une Jaguar vraiment spéciale de 1957. Donc, on va les avoir près des estrades, près du lieu vraiment où la plupart des gens se réunissent. Et non seulement on va les mentionner lors de différentes interventions par notre maître de cérémonie, mais on compte remettre à ces propriétaires-là, ainsi qu'à tous ceux qui vont venir sur le terrain à Chambly la fin de semaine-là, un certificat. Ceux qui possèdent les Lincoln et Jaguar, un petit certificat spécial pour marquer leur 100e anniversaire.
Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Autre chose que vous faites qui est spéciale à Chambly, vous encouragez les propriétaires de voitures qui sont là à s'habiller d'époque, c'est-à-dire de correspondre un peu à l'époque du véhicule, évidemment, qu'ils possèdent.
Oui, c'est une belle initiative que nous avons prise parce que c'est pas compliqué de se trouver des vêtements d'époque. Il y a des magasins qui en vendent puis tout ça. Alors, on essaie d'inciter les gens, non seulement des propriétaires de voitures anciennes, mais aussi le public, à venir costumer. On parle pas de costumes d'Halloween, évidemment. Là, c'est des costumes vraiment d'époque.
Je trouve ça bien que vous le précisiez parce que des fois, on peut avoir un peu un dérapage dans tout ça. Mais habit de Fortrel des années 40, là, ça peut être joli, ça.
Oui, on va accepter une tenue d'Elvis Presley, mais pas celle de Frankenstein, par exemple.
Ça pour
dire que les gens sont invités à venir le dimanche. Ils s'inscrivent, on va prendre en note le coordonnée et le type de tenue. Et puis, il va y avoir une sorte de présentation sur la scène de ces gens-là et la remise de prix à ceux qui...
On pousse jusqu'à aller remettre des prix. Ah ben quand même, c'est bien.
Oui. C'est une belle invitation au public. Non?
Bon, parlez-nous un peu, là, évidemment, on a parlé de Lincoln, on a parlé de Jaguar, mais est-ce que vous avez déjà un certain nombre de modèles qui vous ont été annoncés qui sont rares, exclusifs? Parce que là, on va avoir quoi, près de 500 véhicules qui vont être là?
Oui, on essaie. En fait, le terrain ne pourrait pas contenir plus de 500. Là. À un moment donné, on devient vraiment...
À 500, on est plein, là.
C'est quand même pas mal.
À 500, on a une bonne journée pour se promener, là.
Ah oui, parce que tout est très proche. Et comme vous savez, ceux qui sont familiers avec ce terrain de là, le parc, il y a quand même des tables de pique-nique qui sont dans le chemin, il y a des arbres aussi. Donc c'est pas comme si on pouvait corder toutes les voitures une à côté de l'autre.
Non, c'est un parc, c'est que... ça. Tous les jours, c'est un parc où les gens vont, là. Donc c'est un très bel endroit. Moi, on a fait des tournages là pendant des années pour les légendes de la route. On y allait régulièrement. Là, c'est un endroit vraiment magnifique, là.
C'est beaucoup d'ombre et tout ça. Oui. Donc, c'est les voitures, on ne sait pas d'avance quelles voitures vont venir parce qu'il n'y a pas de pré-inscription.
D'accord.
Mais on favorise naturellement des voitures les plus anciennes, les années 40 et plus vieilles. Par contre, notre cheptel de voitures automobiles, voitures anciennes au Québec, semble rajeunir, c'est-à-dire que les gens qui viennent semblent posséder davantage des voitures des années 60, 70, 80 même, que des voitures des avant-guerre, par exemple.
Ouais.
Alors, on peut avoir des sacrées belles voitures d'avant-guerre, des voitures qui sont entretenues de façon impeccable, mais qu'on ne voit jamais sur la route parce qu'il n'y a pas autant d'avantages à conduire une voiture des années 30 qu'une celle des années 60, par exemple.
Vous, monsieur Gravel, vous êtes impliqué depuis très longtemps. Si je ne m'abuse, vous êtes avec Voitures anciennes du Québec depuis 1974. Donc, vous avez vu l'évolution au niveau du Québec des voitures anciennes. Évidemment, en 1974, on n'était pas très loin des voitures d'avant-guerre. On a progressé depuis ce temps-là. Mais moi, je me suis laissé dire qu'il y a beaucoup de nos belles voitures qui ont pris le côté des États-Unis depuis quelques années. Êtes-vous capable de me confirmer ça?
Je connais quelques personnes qui ont vendu leur voiture à des Américains, tout comme j'en connais qui en achètent des Américains.
Okay.
C'est un flux qui est vraiment fluide de part et d'autre. Quand un propriétaire de voiture ancienne au Québec a une voiture vraiment là, soit rare ou subi une restauration impeccable, là, c'est tentant de lorgner du côté américain pour voir combien est-ce qu'on peut avoir pour ces voitures-là.
Ben oui.
D'ailleurs, le propriétaire qui a amené les trois Lincoln à Chambly, d'une collection d'environ une trentaine de voitures, puis il me disait récemment qu'il va amener une quinzaine d'entre elles à Hershey, qui est la MEC.
Des
propriétaires de voitures anciennes, effectivement. Là, et il va essayer de les vendre là-bas, puis s'il en vend, tant mieux. S'il ne vend pas, il va les ramener.
Okay.
C'est tentant. Donc, ces gens-là, surtout quand c'est des voitures rares, ça vaut son pesant d'or. Puis le marché au Québec n'est pas là, tout simplement pour payer le prix qu'un collectionneur chevronné demande.
Puis on a... L'argent parle fort.
L'argent parle très fort, puis évidemment, on a moins de collectionneurs ici. Mais écoutez, on ne l'a pas dit, mais l'exposition à Chambly, c'est le 9 et 10 juillet prochain. Donc, c'est un samedi et dimanche. J'ai l'honneur d'être le président d'honneur de l'événement.
Oui, merci.
Donc, moi, je serai là dimanche toute la journée là pour rencontrer les gens. Bon, puis il y a beaucoup, à cause, encore une fois, des légendes de la route qu'on a faites pendant des années. Le monsieur qui a la jargon, entre autres, monsieur Spiratos, Nilou, je le connais aussi très bien. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont venus à l'émission au fil des ans. Donc, je vais aller retrouver beaucoup de gens que je connais à l'exposition.
Moi, une question de néophyte. Une voiture ancienne, est-ce qu'il y a un âge spécifique ou c'est vraiment
c'est une bonne question, Alain.
D'ancienne génération?
On parle habituellement d'une voiture qui a plus de 25 ans.
Ah oui, OK.
Notamment pour les gens de mon âge, ma génération, qui ont connu des voitures des années 50-60, c'est moins intéressant, une voiture de 20-25 ans. Mais prenez des jeunes aujourd'hui là qui n'ont connu que ça, des voitures de 95 et plus récentes.
Ouais.
Ben, c'est pour eux autres, ce sont des beaux modèles.
Oui, puis j'allais dire, 25 ans, ça nous ramène à la fin des années 90. Là, fait qu'il y a quand même toutes les années 80 qu'on peut considérer.
Ouais.
Puis s'habiller en style années 80, c'est pas nécessairement la mode en ce moment, mais ça se fait.
T'as-tu un Walkman?
Oui, mais c'est
Walkman, du palais Walkman avec toi, puis t'as déjà un début. Donc,
c'est ça, je voulais juste ajouter. Oui, il y a des gens qui s'intéressent surtout aux voitures à peine 20-25 ans, mais d'autres, ils s'en font, s'en fait de plus en plus rares. Des gens qui possèdent des voitures des avant-guerre, c'est pour ça qu'on essaie de les attirer, ces gens-là, à Chambly, parce que des boîtes carrées, comme on les appelle, là, sont vraiment rares, uniques, et ça indique que des gens ont une foi immense envers des voitures qui prennent pas la route à 100 km/h. Alors, ces voitures-là sont spécifiquement invitées, surtout le dimanche, pour être jugé et recevoir naturellement des trophées d'après-midi lors de la remise des trophées. Là. Alors, on leur donne une chance un peu au lieu de venir le samedi, puis d'être jugé le samedi, puis revenir le dimanche. Alors, ces gens-là rentrent à Chambly non seulement pour la journée du dimanche, mais aussi ils peuvent entrer avec la voiture d'avant-garde gratuitement. Donc, c'est une sorte de petite faveur qu'on fait à ces gens-là, parce que plusieurs se déplacent plusieurs kilomètres là à 40-50 km/h. C'est pas toujours facile avec la circulation.
J'allais demander justement, donc il faut que la voiture puisse se déplacer. Là. C'est pas nécessairement des véhicules qu'on met sur une plateforme qu'on amène puis qu'on dépose. Là.
On n'est pas assez difficile là-dessus pour exiger qu'une voiture roule de son propre gré. Là. Certaines voitures arrivent sur des remorques.
Ah,
quelques-unes.
Oui,
okay. On les accepte. Il y a des concours d'élégance aux États-Unis où est-ce qu'on exige que la voiture roule un certain nombre de kilomètres ou peu importe. Mais non, à Chambly, on n'est pas aussi exigeant.
Bon, alors, je rappelle les dates, c'est le 9 et 10 juillet prochain. L'admission, c'est très abordable, là, c'est 10 $ puis c'est
10 $
c'est ça. 17 ans et moins, gens, c'est gratuit, là, il faut le dire
oui,
aussi.
Oui, et puis, Benoît, juste une chose aussi, pour attirer le public qui n'est peut-être pas aussi fervent des voitures anciennes, mais on a une musique, le Baby Boomers Band.
Ah oui.
Un groupe musicien très connu au Québec, il est invité partout dans une sorte d'activité. Donc, ce groupe-là va performer deux fois, donc à 11h30 et à 1h30 le dimanche, pour simplement mettre de l'ambiance dans la place et pour démontrer un peu leur talent et se faire connaître. Alors, ça met beaucoup d'ambiance.
Donc, si vous venez pas pour les autos, venez pour la musique.
Ben oui, pourquoi pas. Plusieurs décennies de musique possibles.
Absolument, absolument.
Ouais, ouais.
Ben merci de votre temps, M. Léo Gravel. C'était très apprécié. Évidemment, moi, je serai là dimanche toute la journée, puis on invite les gens à venir faire un tour parce que c'est toujours une très belle exposition. Merci beaucoup encore.
Merci. Bonne journée.
Merci. Bientôt. Bye-bye. Alors, c'est à M. Léo Gravel, qui est vice-président de Voitures anciennes du Québec. Et évidemment, Voitures anciennes du Québec présente le concours d'élégance à Chambly, 9 et 10 juillet prochain. 10 $ là, franchement, pour voir.
C'est le fun, un concours d'élégance.
Et on apprend beaucoup parce que les gens qui sont propriétaires de ces voitures-là sont des passionnés.
Ouais.
Ils connaissent la voiture de fond en comble. Moi, je vais toujours me rappeler du premier, un des premiers invités qu'on avait aux Légendes de la route, c'était Bernard Bellavance, un propriétaire de Jaguar type E. Ce bonhomme-là connaissait l'histoire de Jaguar depuis, je pense, la naissance du propriétaire. C'était hallucinant. Monsieur Spiratos, qui va être là avec lui aussi une Jaguar, qu'il avait amené à l'émission. Et c'est des gens qui sont extrêmement intéressants. Alors, si vous voulez améliorer votre culture de la voiture d'époque, c'est vraiment une belle journée que vous allez passer là. Puis les gens sont généralement assis à côté de leur voiture et on prenne un vrai plaisir à raconter son histoire. Alors, ça va être le fun. Comme je vous dis, moi, je serai là le 10 juillet. Est-ce qu'on prend une petite pause? On va prendre une petite pause, puis après, on revient avec, nos actualités.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, on continue en version balado, une version estivale. Alain, manchette, ça continue même si c'est l'été.
Ouais.
On a toujours des nouvelles pratiquement tous les jours. T'as retenu quoi cette semaine pour nous?
Écoute, j'ai une nouvelle, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais bref, semble-t-il que les acheteurs de voitures de luxe sont de plus en plus infidèles.
Ah!
Hein?
Ah!
Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. écoute, Tesla, Genesis et Maserati sont les trois seules marques de véhicules de luxe qui ont vu l'avantage de clients adopter la marque plutôt que de l'abandonner au cours de la dernière année. Ça, c'est ce que dit une étude réalisée par la firme, en fait, une espèce de sous-division de la firme S&P Global Mobility. De façon générale, là, les acheteurs de véhicules de luxe ont un niveau de fidélité à la marque qui se situe à environ 45%. C'est-à-dire qu'un peu moins que la moitié des acheteurs qui possèdent une voiture de luxe et qui désirent changer de véhicule reviennent à la même marque.
OK.
C'est quand même intéressant parce que c'est le taux le plus bas dans l'industrie.
Donc, ouais, parce que j'aurais cru que c'était un peu plus élevé que ça, honnêtement.
J'imagine que les acheteurs, et c'est un gros préjugé, mais que les acheteurs de camionnettes sont plus fidèles à la marque par rapport aux autres marques, aux autres types de véhicules.
On sait que les acheteurs de pick-up, là,
exact.
Puis moi, là, j'ai la preuve parce que dans ma famille, j'en ai un que c'est du GM et la fin du monde va arriver avant qu'il change d'idée. Et mon beau-père, c'est Ford depuis toujours. Puis j'ai beau lui faire essayer des pick-up d'autres marques, c'est jamais comme un Ford. Alors, je sais que de ce côté-là, il y a une fidélité assez forte. Mais là, bon, de ce temps-là, c'est sûr que c'est difficile d'être fidèle. Parce
qu'il y a un contexte aussi, effectivement.
Tu prends ce qu'il y a par les temps qui courent et non pas ce que tu veux.
Ouais, ça, puis évidemment, bon, la transition là, de l'industrie, c'est un peu éloquent dans les chiffres parce qu'en fait, Tesla est la seule grande marque, la marque qui fait du volume, là, à avoir un résultat positif au cours de la dernière année.
OK.
Parce qu'on s'entend, Maserati, c'est une marque très nichée.
Oui.
Et Genesis, qui parle à peu près rien, en fait, a probablement plus plus de facilité à attirer des nouveaux acheteurs, étant donné qu'ils sont tous à peu près nouveaux.
Ben, c'est de la conquête. Ben, les autres, tout est de la conquête. Il n'existait pas là avant.
Les marques qui sont les plus grandes perdantes au jeu de la loyauté sont Land Rover, Porsche, Lincoln et Audi. Je le disais tantôt, je pense qu'on peut peut-être tracer un parallèle entre le niveau moyen de consommation d'essence et des produits vendus par les marques et le niveau de loyauté de leurs clients. On voit le prix des carburants grimper, plusieurs rêves d'une voiture électrique. Tout ça fait qu'on se rend vers les marques qui sont peut-être un peu plus avancées dans la soit l'électrification ou des solutions, disons, pour réduire sa consommation ou peu importe, réduire ses coûts d'opération du véhicule.
OK.
Puis on le sait, Tesla, c'est une marque qui s'inspire beaucoup de l'électronique, mais qui a son, contingent de fidèles adeptes, n'est-ce pas, qui ne jouent
que
par la marque.
Moi, je les appelle les apôtres de Tesla.
Il y a des marques comme ça qui ont effectivement, en tout cas, disons, des abonnés très, très sincères.
Qui ont un noyau très fidèle,
exactement.
C'est clair.
Donc, on voit que, effectivement, c'est pas juste une impression, les statistiques confirment que cette réalité-là existe bel et bien.
OK. Puis l'autre, ben, c'est une nouvelle qui est pas vraiment surprenante, parce que on avait déjà abandonné ce modèle-là du côté du Canada, mais là, ça a l'air qu'on va le faire du côté des États-Unis aussi.
Ben, je veux dire, je veux pas dire qu'il est à peu près temps, mais c'est un peu conséquent. C'est la fin, donc, du... je sais pas si on dit le ou la Titan.
Parce moi, je parle du... Quand c'est un camion, je dis le, moi.
C'est un Titan. Le Titan, c'est masculin. Évidemment, la camionnette, c'est féminin, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, Nissan, là, est un peu un des perdants dans le marché des camionnettes. On le disait tantôt, c'est drôle, ça fait un lien. Ça joue rude dans le marché des pick-up pleine grandeur, et malgré des efforts étalés sur plus de 20 ans, Nissan ne semble pas capable de se démarquer dans ce créneau qui, on le sait, là, est largement dominé en Amérique du Nord par les marques américaines, évidemment. C'est pourquoi donc le Titan, selon en tout cas ce que rapportent des concessionnaires aux États-Unis ces jours-ci, là, ne sera bientôt plus dans le catalogue de produits de la marque japonaise. Évidemment, le modèle actuel, là, dont la refonte remonte à 2015, vieilli vite et a pas grand-chose à offrir là, pour se distinguer de ses rivaux. Sa mécanique mise sur des cylindrés, en fait, son choix... Il n'y a même plus de choix. Je pense qu'il y a juste un moteur maintenant. On parle de cylindrée bon, relativement puissante, mais très gourmande.
Il y a eu deux moteurs. Il y a un diesel qu'on avait abandonné en cours de route.
Ah oui, c'est ça. Il y avait le Titan XD qui était un moteur diesel avec un gros V8 Cummins de mémoire. Écoute, Nissan, à la base, espérait dans le meilleur des mondes vendre 100 000 exemplaires du Titan par an en Amérique du Nord. Et l'an dernier, les ventes ont plafonné à 27 000 quelque chose.
On n'était pas à 30 000.
On est vraiment loin du compte. Je pense qu'on peut dire quand même, pour élargir un peu, que le groupe Nissan au complet a peut-être besoin là, de se remettre en question ces jours-ci. La marque continue de miser, la marque et les autres sous-marques, parce que c'est pas la seule, continue de miser fort sur un mélange de berlines, de véhicules, tout ça à essence, qui sont pas adaptés à la réalité actuelle du marché, faut le dire. On a fait un effort du côté des petits VUS, mais il y a comme un virage technologique qui semble tarder, même au niveau...
Regarde la RIA. Nommons la RIA qu'on a vu au salon de l'auto de Los Angeles en 2019.
C'est un bel exemple.
Puis qui est un modèle de production. Là, c'était pas un concept. Ce modèle-là était prêt à aller sur la route. On devait avoir ça en 20, en 21. On est rendu en 22. On a encore retardé le lancement qui devait se faire au printemps. On est rendu à l'automne.
Ouais.
On pensait l'essayer pour le livre, mais on ne l'aura pas.
Ouais.
Mais là, à un moment donné, c'est parce que c'est plus drôle. Là, après 3 ans, le modèle, on va présenter la deuxième génération du modèle alors que la première n'a jamais roulé.
Ben là, l'affaire, c'est ça. C'est qu'on perd du temps puis il y a de l'énergie qui est dépensée.
Ben oui,
puis justement, l'Aria, c'est un petit VUS électrique basé sur la Leaf qui était en tout cas, dans ses débuts, disons, un véhicule en avance sur le marché. On a vraiment perdu cette avance-là et là, on est rendu un peu à la traîne de cette tendance-là. Donc, Nissan... Première victime, donc ben, peut-être pas la première, mais victime du moment, c'est vraiment le Titan. Puis on voit pour la suite des choses, mais on parle, tu sais, d'ici 2030, là, il va avoir beaucoup de changements. Puis on parle des fois, est-ce qu'il va y avoir des groupes automobiles qui vont disparaître ou qui vont, disons, perdre
qui
un
devront
peu
se fusionner ou qui devront passer
Nissan,
à d'autres choses.
Le groupe Nissan qui est maintenant avec
Le groupe Renault-Nissan,
une espèce d'alliance.
Ouais.
Ils m'apparaissent moins solides qu'ils l'étaient il y a 5 ans.
Je te dirais que l'épisode Carlos Ghosn a laissé de profondes cicatrices dans tout ça parce que c'est un putsch des Japonais. Là. On pourra un jour revenir et faire l'apologie de tout ça, mais il est clair que ce qu'on a reproché à Carlos Ghosn, à peu près tous les présidents, directeurs généraux de compagnies automobiles font pire et pas mieux de toute façon.
Ouais.
Et on disait, c'est un scandale, on le paye 20 millions d'euros par année. Savez-vous qu'Alain Mulally a eu 200 millions de dollars quand il a quitté Boeing? Puis il dit, je vais travailler chez Ford pour rien première année. Ben oui, toi. Moi, si quelqu'un me donne 200 millions US demain matin, je vais accepter de travailler un an ou deux pour rien. Je pense que je me sentirais pas du tout mal à l'aise.
Ouais.
Mais la vérité, c'est que on regarde des PDG des grandes compagnies automobiles. Puis 20 millions, là, c'est des peanuts, là.
Non, puis c'est un peu ingrat parce que Ghosn a remis Nissan sur les rails quelques années déjà, là, mais...
Et le fait que Nissan tenait si bien la route, hein, pour employer les présidents, faudrait faire une cloche à chaque fois qu'on
ding, ding, ding.
mais ça tenait beaucoup au fait que lui avait une main mise de fer, c'est vrai. Mm-hmm. Mais c'est, il y avait une vision. Et on avait été le chercher parce que Nissan était dans la chenoute. On perdait beaucoup d'argent et lui a ramené le profit. C'est sûr que sa méthode n'était pas estimée de tous, mais ça fonctionnait.
Non, puis le virage électrique hein, chez Nissan, on le sait, ben, tu l'as dit souvent, les Japonais ils sont un petit peu plus réticents que d'autres à électrifier, donc... Et lui avait une vision très...
Ben, en fait, moi, j'avais assisté au premier lancement, au lancement initial de la Leaf qui était au Dodger Stadium à Los Angeles. Et lui avait dit, Carlos Ghosn, lui-même était là pour présenter le véhicule et en disant, nous, on saute l'étape de l'hybride branchable, on s'en va tout de suite à l'électrique parce qu'on veut tracer le chemin. On veut pas suivre un chemin qui a déjà été établi par d'autres. Et ça monte un peu comment lui voyait ça. Et les Japonais, qui sont des gens extrêmement conservateurs, le voyaient des fois un peu trop avant-gardiste. Et je suis sûr qu'à la fin de la journée, c'est un peu beaucoup ce qui lui a coûté, ce qui est arrivé. Bon, puis injure ultime, le gars s'est sauvé du Japon comme un voleur.
Ah oui, ben littéralement, c'est ça.
En plus. L'honneur japonais en a pris pour son rhume, je vous le jure. Mais tout ça pour dire que Nissan est en profonde réflexion et en profond remaniement en ce moment, ça c'est clair.
Ouais.
Parlant de voitures et de prix de véhicules électriques, il y a eu cette semaine les paroles de quelqu'un de chez Stellantis en Europe qui s'appelle Arnaud Deboeuf, qui n'a pas mâché ses mots. Il a dit, si le marché automobile continue de cette façon-là, c'est-à-dire en parlant des prix qui augmentent et qui augmentent et qui augmentent, on pourrait voir un effondrement du marché automobile. C'est pas des petites paroles, là, puis ça vient d'un bonhomme qui a les deux pieds dedans. On dit que le problème en ce moment, c'est que on paye beaucoup trop cher pour les composants, les matériaux. On peut parler du lithium, du cobalt dans le cas des véhicules électriques, mais là, avec tout ce qu'on vit en ce moment, la guerre en Ukraine, la pénurie, la chaîne d'approvisionnement, le manque de puces, les prix ont augmenté, on est en pleine récession. Là, il dit, à ce rythme-là, on sera pas capable d'offrir des véhicules à des prix abordables parce qu'il y a toujours eu, c'est clair qu'il y a du monde pour acheter des véhicules à 60, 70 000 $.
Tesla existe pour une raison.
Mais tu sais, il faut jamais oublier que monsieur, madame, tout le monde, là, ils ont pas 50 000 $. Tu sais, le prix moyen d'un véhicule au Canada en ce moment, c'est 53 000 $. Prix moyen d'un véhicule neuf.
Ouais.
Hey, attends un peu, là. C'est très cher.
C'est beaucoup, puis il n'y a pas tort de le dire. La plupart des industries, dans le temps, la valeur des produits baisse parce que les processus s'améliorent et tout ça. Mais dans l'industrie automobile, en ce moment, c'est le contraire qui se passe.
C'est le contraire. Mmh. Et on avait promis qu'avec le plus grand volume de véhicules électriques, que le prix allait baisser. Or, c'est pas vrai pantoute. Pour le moment, c'est pas ça qui arrive. Et là, ce qu'on craint, c'est qu'on va littéralement mettre de côté une partie de la population qui ne pourra plus s'acheter d'automobile. Mm-hmm. Et là, ben, les volumes vont baisser. Si les volumes baissent, on pourra pas diminuer les prix. Il y a une roue qui tourne. Là, lui dit que Stellantis vise à réduire de 40% le coût de fabrication des véhicules électriques d'ici 2030. On va s'y prendre comment? Est-ce qu'on va changer batterie au lithium pour avoir des matériaux qui coûtent moins cher?
Tant qu'on vient pas aux batteries nickel, métal, hydrure.
Non. Mais tu sais, on parle de phosphate, on parle de soufre, on parle de fer. Ouais. On a d'autres matériaux qui, en tout cas, selon plusieurs, vont donner à peu près le même rendement au point de vue autonomie, mais qui va coûter moins cher parce que Stellantis, à eux seuls, prévoit de lancer plus de 75 modèles entièrement électriques d'ici la fin de la décennie, donc 2030. Les usines, on a mis une montagne d'argent pour transformer des usines électriques. On l'a fait du côté de Windsor. On va changer à Brampton. L'usine va devenir électrique.
Mm-hmm.
Je pense que le nerf de la guerre, puis je pense que Tesla était le premier à le comprendre, il va falloir aussi fabriquer ses propres batteries.
Ben, l'approvisionnement, il est la clé.
L'approvisionnement, en ce moment, est le problème numéro un. Moi, j'ai parlé à mots couverts et off-record à des ingénieurs de deux compagnies automobiles que je nommerai pas, et les deux m'ont dit la même chose. On aimerait produire plus de véhicules électriques en ce moment. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir le nombre de batteries qu'on a besoin.
Oui, c'est ça.
Donc, si tu dis, moi, tu promets au concessionnaire que tu vas lui livrer 50 000, mais dans les faits, tu peux juste en fabriquer 30 000, ils en auront pas 50 000. Et là, le problème qu'on a en ce moment, on disait l'année passée qu'on a produit à travers le monde, je pense que c'est 176 000 tonnes de lithium, et les demandes étaient plus de 200 000. Clairement, il y en a pas assez.
Exact.
Et on est encore dans les premières étapes de fabrication. Là. On est à l'échelle mondiale à 7-8% à peu près de véhicules électriques.
Mm-hmm.
On va faire quoi quand on est à 50% puis à 60%? Parce que techniquement, là,
ça prend les produits pour
c'est en 2035 là, qu'on va être rendu là. Là ouais. Alors donc, il y a beaucoup de réflexions à faire et je pense qu'on a tiré une petite sonnette d'alarme en disant là, il va falloir se rendre compte que on n'a pas, tout le monde n'a pas l'argent d'aller là. Puis tu sais, si on regarde les modèles électriques là, cette année, Tesla, l'augmentation moyenne de chaque modèle, c'est 6 000 $ par véhicule.
Ce sont des gros sous.
Ça fait deux fois qu'on augmente le prix de base du Hummer, qui est même pas encore arrivé sur le marché.
Ouais.
Ford a fait la même chose avec le F-150 Lightning. Rivian a fait la même chose avec ses modèles. Lucid, on peut toutes les nommer, là.
Mm-hmm.
Ces prix-là montent et à un moment donné, oui, il y a des gens intéressés. Mais monsieur, madame, tout le monde là qui achetait un Kia Rio, un Hyundai Accent, une Toyota Corolla, des autos, on élimine les modèles qui sont plus assez rentables financièrement pour laisser les modèles payants. Mais il faut pas oublier qu'il y a du monde en arrière,
ouais.
Qu'eux autres, là, ils peuvent pas dépenser 50, 60 000.
Ça devient un enjeu de
donc,
mobilité
plus large. Donc, il y a une réflexion ouais. à faire qui est assez importante là-dessus. Tiens, je vais terminer avec une petite nouvelle qui est sortie cette semaine aussi. On le sait, Alain, chaque année, J.D. Power fait son étude sur la qualité initiale des véhicules.
Oui.
C'est-à-dire, ça, c'est les 100 premiers jours de possession de véhicules. Évidemment, c'est un questionnaire qu'on donne aux gens. Donc, il y a une partie, je dirais, là-dedans, un peu subjective.
Mm-hmm.
C'est pas de l'objectivité où t'as des gens qui analysent, qui regardent.
Ouais, des morceaux qui brisent, puis ça, c'est évident.
Bon,
ouais.
Exact. Ce qu'on demande aux gens, c'est êtes-vous satisfait de votre véhicule? Et parlez-nous donc de ce qui se passe, puis c'est quoi l'affaire qui vous agace le plus. C'est un peu ça, parce que j'ai des gens qui ont réagi quand ils ont vu ça sur le site annuelauto.ca en disant « Buick ». Parce que Buick a terminé premier des études de J.D. Power cette année. Et les gens se sont dit « Ah oui, vraiment, Buick ». Puis c'est pas la première année, c'est la troisième année que c'est un constructeur américain qui arrive en haut du palmarès.
Mm-hmm.
Puis c'est Dodge qui est deuxième cette année. Et pour ceux qui disent, ah oui, Chrysler, non, son dernier Chrysler.
Oups.
mais
pas la même chose.
Ça prouve que, évidemment, tout ça est selon la réaction des propriétaires.
Ouais, puis 100 jours, c'est 3 mois, là. On a le temps d'apprécier son véhicule et c'est rare qu'il y ait le temps de péter.
Bon, d'habitude, les 100 premiers jours, il se passe pas grand-chose, c'est notoire. Moi, que vous avez une Jaguar.
Ben, d'arrière. Oups,
j'ai dit ça fort.
Moi, j'allais parler de politique fédérale, mais chacun son truc, là. Il se passe rien dans 100 jours.
Mais il se passe pas grand-chose dans 100 jours. Mais bon, on fait ça chaque année, puis ça fait un petit peu parler des gens. Ce qu'on a réalisé, par contre, c'est que en général, pour 2022, le nombre moyen de problèmes recensés par véhicule a légèrement augmenté par rapport aux années 21 et 20. Pas grand-chose. On parlait de 162 problèmes par 100 véhicules. Donc, ça fait 1,6 problèmes.
Ouais.
Après ça, on a parlé de 166 et cette année est à 180.
Okay.
Donc, il y a quand même une légère augmentation.
Ouais, mais si on le prend dans le temps, sur 20-25 ans, c'est quand même
exact.
En amélioration continue.
C'est en amélioration continue. Mm-hmm. Ce que les gens déplorent parmi les problèmes qui reviennent le plus souvent, vous serez peut-être pas surpris d'apprendre que c'est les fameux systèmes d'infodivertissement qui sont des fois un casse-tête. On en a parlé à nombre de reprises.
Oui, oui.
exactement. Dans l'émission, mais ça fait quelques années parce qu'il y en a qui s'avèrent problématiques. Il y a des gens qui disent, écoutez, je sais toujours pas. M'a donné un exemple
ben,
très
Jaguar
simple.
Jaguar est encore un bon exemple de Jaguar système est vraiment encore mal foutu.
Mais le lyrique, on va en parler tantôt, mais ça m'a pris 15 minutes pour voir comment on ouvrait le coffre à gants d'un lyrique.
Ben voyons donc.
C'est un bouton dans le sous-menu de l'écran central. Je me disais, on voyait bien, là, je voyais les coutures, j'ai dit, il y en a un, parce que je cherchais un bouton.
J'allais dire, c'est un aria, mais là, je ferais un mauvais jeu de mots.
Oui, ah, c'est bon. Mais tu sais, qui a été mettre ça dans un sous-menu à l'écran? Hey, un bouton à côté, puis tu rouvres, ou ben non, une petite clan. Ah,
combien
non,
de
non.
fois dans une semaine t'as besoin du coffre à gants? C'est une bonne question.
Ben, poser, c'est ça. Ben, en tout cas, mais ça revient souvent dans les problèmes les plus fréquents. Ouais. Après ça, ben, il y a des problèmes comme les commandes et les affichages, qui sont, qu'on trouve pas toujours, les aides à la conduite. Donc, ça revient beaucoup à l'électronique. Mm-hmm. Et ceux qui perdent beaucoup de points, on a nommé Jaguar, c'est un bel exemple, qui ont un système difficile, mm-hmm. compliqué, ben eux autres baissent dans le classement parce que les gens ont de la difficulté à l'utiliser. Mais si vous voulez aller voir, on l'a mis l'article sur annuelauto.ca avec évidemment le classement des meilleurs au moins bons. Chose dite, cette année, on a inclus Tesla parce qu'on a eu assez d'états où on a été capable de recenser l'information, mais Tesla termine assez loin.
C'est un cas de multimédia, ben oui, exactement, parce qu'ils intègrent différemment les appareils, les téléphones, entre autres, puis ils ont une interface bien unique. Alors,
voilà, alors c'est une petite nouvelle. On va prendre une autre petite pause. On vient avec nos essais routiers et la chronique Écoloto.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, pour ceux qui veulent nous écouter, évidemment, en balado, vous abonnez. C'est la meilleure façon.
Ouais,
on peut le faire chaque semaine. Et vous abonnez, ben, vous avez un petit avertissement et vous recevez l'émission lorsqu'elle arrive. Vous pouvez le faire via vos plateformes préférées. Spotify,
Apple Balado,
Google
Balado, Deezer, Pocket Cast.
Alain connaît ça plus que moi.
Il y en a un paquet. Moi, je peux recommander un paquet de bonnes balados aussi.
Oui.
On en a d'excellentes. Le groupe C23 en fait quelques-unes. Celle qui marche le plus chez C23, d'ailleurs, c'est celle de Christian Page, là, qui est un peu vaguement ésotérique.
Oui, ben, il y a toujours de la sortie pour ça.
Non, ben, c'est ça, ça vaut la peine d'être conscient.
Puis on peut aller évidemment sur C23, ici au 98.5, dans la section balado. Alors, vous avez le balado, ça tient la route. Alors, tiens, on parle de notre chronique Écolo Auto. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur écoloauto.com. Comme on parle cette semaine de temps de recharge, parce qu'on le sait, le temps de recharge, c'est souvent un obstacle pour beaucoup de gens.
Ben, on y pense moins en achetant, mais on s'en rend compte après.
On fait le tour, c'est-à-dire qu'on parle de produits, on y va en ordre alphabétique, là, on part de Audi, on va chez BMW, puis on va pratiquement faire tous les modèles qu'il y a, et on donne le temps de recharge de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, donc un niveau 1, évidemment, c'est la prise 110 que vous avez dehors chez vous. Ça, il faut avoir beaucoup de temps devant soi. Moi, je l'ai eu, je l'ai fait, c'est drôle, parce que quand j'ai eu la Mach-E, j'avais un deuxième véhicule en essai. Fait que j'ai dit, moi, le faire. Je suis revenu chez nous. Il me restait comme 8% de charge. J'ai dit, qu'un. Puis je l'ai laissé dehors.
Ben, ça, c'est l'équivalent d'avoir le petit contenant essence rouge dans le coffre.
Oui,
c'est
ça.
Parce que tu t'en sors pas de ça au quotidien.
Non. Moi, je l'ai mis là. Ça a pris 2 jours.
Ouais, c'est ça.
C'est pas compliqué. Ça a pris 47 heures et des poussières. Mais il était plein. Bon, alors,
ben,
si j'avais été chez
pareil,
nous,
c'est,
ben, c'est ça.
Ouais.
Alors qu'un niveau 2, là, un 240-32, comme on retrouve du côté du circuit électrique, entre autres.
Ou à la maison, dans bien des cas.
Ou à la maison, ben, ça va vous prendre entre 8 et 10 heures, dépendamment de l'ampérage que vous avez.
C'est vite, ouais.
Puis, ça va vous prendre 45 minutes pour vous rendre entre 10 à 80%. Donc, vous avez un petit peu une idée. Alors, on passe dans l'article, comme ça, tous les modèles. Hummer, si vous laissez ça sur le 110.
Ah oui, mais là, c'est parce que ça, c'est plus une batterie, ça. C'est une piscine olympique de lithium. Ben, je veux dire, parce que c'est vraiment gros, si je compare à ce que tu disais avec le Mach-E, j'ai en tête, j'ai 4 jours.
c'est 200 heures. Fait que, fais le calcul.
200 heures! 200 heures! C'est quasiment 10 jours!
Puis sur la même la prise à la maison, niveau 2, ouais.
Taboy!
Puis prise niveau 2, c'est quand même 22 heures. Parce que c'est une pile de 246 kWh, mesdames, messieurs.
C'est énorme, ce truc-là.
Oui, oui, oui. Donc, mais on peut, sur du 800, parce qu'il y a du 800 volts, mm-hmm. ça va vous prendre 28 minutes, mais il faut trouver la bonne prise. Ouais. Parce que là, c'est dans le ultra supra rapide.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, je vous invite à aller voir Écolo Auto. Vous avez l'article complet qu'on va mettre en ligne, d'ailleurs, sur le site annuelauto.ca d'ici à demain. Hey, essai routier.
200 ans.
200 ans. Allez, il est encore en train de calculer. Fait que si tu l'empruntes pour la semaine pis t'as pas d'autre chose, faut juste te charger.
Ben là, tu restes pris chez le locateur, effectivement.
C'est ça.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, essai routier, tu me parlais de l'Elantra N.
Ça, c'est un dur retour à la réalité.
Oui.
Écoute, c'est une drôle de voiture, l'Elantra, évidemment. On le sait, là, c'est une Hyundai. J'ai réalisé que j'avais une histoire, j'avais un vécu avec l'Elantra au fil du temps et j'ajouterai même, parce que c'est le fun de le dire, la Stellar qui était avant.
Oh boy!
L'intermédiaire chez.
Est-ce que ça vaut la peine de le mentionner?
Ben, pour ceux que ça allume une lumière, rappelez-vous qu'il a déjà existé ce véhicule-là dans l'univers. Écoute, l'Elantra, pour moi, c'était jusqu'ici une berline compacte et sans histoire. C'était un peu la Corolla de Hyundai, là.
Ben, c'est un peu ça, d'ailleurs. Ben, la voiture avec un bon format, mm-hmm. qui est compact, mais quand même généreux. T'avais une version, t'as eu des versions Ayon, des versions sport, t'as eu la Touring qui était comme la familiale.
Exact.
Puis là, on a dit, mettons donc un peu de sport dans tout ça, parce qu'on a la N-Line,
c'est ça, parce que Hyundai a décidé vraiment de lui faire prendre du volume, du poids et du muscle en 2022. Donc, puis là, la N, c'est la... Toute la semaine, chez nous, on rigolait. On disait N pour sport parce que les enfants me demandaient pourquoi N-Line, ça veut dire quoi?
N pour sport.
Clairement, ça veut dire sport. Fait que ça veut dire N pour sport. Il y a aussi le Kona N qui a droit à la même sauce magique, là.
Oui.
Mais celui-là, moi, je l'ai pas essayé. On pourrait peut-être en reparler un autre
Moi, je l'ai essayé. Absolument. Voilà.
L'Elantra N, là, c'est un peu la Golf GTI d'Hyundai. Son prix de vente est de 37 199 $ de base pour le modèle à boîte manuelle à 6 rapports et de 38 799 $ pour la version à boîte automatique. Ça place cette berline-là, qui, à mon avis, est rendue une intermédiaire, c'est plus une compacte, au haut de la fourchette de prix dans le segment. Pour la peine, là, on a droit à une Elantra qui est visuellement distincte des autres versions. On le voit tout de suite avec l'espèce de bas de caisse sportif, un aileron assez particulier, un peu plus surélevé, et une finition à deux tons de couleurs, deux peintures, qui signale clairement que cette voiture-là est faite pour être conduite. Les gens qui ont des bons yeux vont aussi remarquer que l'Elantra N a droit à des pneus Michelin Pilot Sport 4S, qui sont quand même pas mauvais, montés sur des jambes de 19 pouces, qui sont, elles, très distinctives. Et tout ça ajoute, évidemment, à l'allure de performance de cette N-là. Et tu vois, dans mes notes, j'ai écrit « Pourquoi N? Personne ne le sait vraiment. » Probablement que les Coréens ont une bonne explication. Mais effectivement, si jamais vous posez la question, dites-le « N pour sport ». Moi, je trouve ça excellent comme gag. Cela dit, quand on passe derrière le volant, là, on s'aperçoit bien que Hyundai a dû avoir toutes sortes de misères à passer de la théorie d'une Elantra à caractère sportif à la réalité d'une petite berline à la tenue de route impeccable. On avait déjà, là, on le sait, Hyundai, écoute, ils font des véhicules dans toutes les directions, donc ils avaient déjà tous les morceaux disponibles dans le catalogue des pièces là pour vraiment produire une voiture sportive. Sous le capot, évidemment, on a une cylindrée qui se distingue assez bien, là, un 4 cylindres turbo de 2 litres qui développe pas moins de 276 chevaux de puissance et 289 livres-pieds de couple.
Je viens de trouver le N. Je l'avais pris en note quand j'ai écrit un article. Il faut que je retourne. Puis pendant que tu me parlais, je suis retourné.
Mais je l'ai déjà lu aussi, mais ça m'a complètement échappé.
Le véhicule est fabriqué, ou l'idée du véhicule N est née dans le quartier de Namyang.
Ah, voilà.
Alors le N, c'est pour le quartier de Namyang. N pour Namyang. Mais N pour sport, je trouve ça plus beau.
Moi, ça serait mon slogan. Si j'étais le président de Hyundai, en tout cas.
D'autres ont dit c'est pour Nürburgring, où a été développé l'auto. Un ou l'autre, ça va faire la job.
Encore faut-il le savoir, parce que
encore
c'est pas évident
de le savoir.
Effectivement.
Exact.
Bref, parler du deux cylindres turbo, pardon, qui est jumelé à une boîte manuelle, c'est ce rapport, là.
Deux litres turbo, c'est-à-dire deux cylindres.
Deux cylindres turbo.
T'as un petit moteur.
Ah oui, là, j'ai essayé une tondeuse la même semaine, j'ai peut-être confondu. mais t'as raison. Quatre cylindres, donc turbo, avec boîte à six rapports. Sur papier, là, ça promet de belles accélérations, des reprises grisantes. Moi, j'ai toujours. Et c'est là où mon histoire avec l'Elantra commence. Moi, j'ai appris à conduire manuel sur une Civic. Fait que ça n'a pas rapport, mais l'embrayage des Honda a toujours été très nerveux, très strict et calé.
Très fluide.
En première vitesse, une Civic, ça a toujours été extrêmement facile. À l'opposé, l'Elantra, pour les gens qui voulaient apprendre à conduire manuel
C'était facile.
Écoute, c'était impossible à caler.
Ouais.
Il y avait tellement une espèce de jeu dans le point de friction que c'était, écoute, tu pouvais prendre quasiment une minute avant de mettre du gaz en lâchant l'embrayage. Et là, on a le même problème.
Sauf que c'était un chasse-part.
Mais là, on a un chasse-part. On, oui. On veut que ça aille vite. Fait qu'on lâche. Comme on dit à mon frère, on lâche la cloche, on pèse sur le gaz, puis il se passe à rien.
On drop la cloche, ça fait mou.
Exactement. Écoute, c'est mou, c'est flou, c'est imprécis. Le fameux point de friction, là, est tellement capricieux qu'on a réussi. Mais moi, en tout cas, j'ai réussi à caler le moteur en plus. Parce que là, c'est ce que je pensais impossible, finalement, est très possible. Puis c'est un peu fâchant parce qu'on veut pas, tu sais. Ce qui est dommage, parce que tout le reste de la voiture est prêt pour une conduite plus relevée. La suspension est raffermie. Cela dit, quand même un peu paresseuse dans les virages, à mon avis, là, c'est pas exactement la tenue de route que j'aurais espéré de ce genre de voiture-là. Surtout que dans ma tête, l'élan traite est plus petite qu'elle est rendue aujourd'hui.
Ouais.
Et malgré qu'elle est très performante et tout le kit, clairement, ça n'a pas été communiqué aux assistants électroniques qui refusent de passer, eux, en mode sportif. Ce qui signifie qu'on a régulièrement des alertes qui sonnent de tous les sens, toutes les directions, pour toutes les raisons qu'on ignore et qu'on ne sait pas trop pourquoi. Si on accélère sur l'autoroute, ben on s'approche des véhicules devant nous. Là, l'alerte sonne, même si on est encore à une bonne distance.
Ah, c'est fatigant. C'est fatigant. Ça sonne
conduit,
à tout bout de
champ. On s'approche des lignes sur les côtés, ben là l'autre alerte sonne. Puis il y a comme 18 sons différents. Là. C'est comme... Tu sais, quand t'as un iPhone, puis tu sais pas si c'est ton texto, ton messenger, ton email. C'est exactement la même chose, mais t'es dans une auto, puis tu conduis. Fait que c'est extrêmement irritant. Il y a aussi, je vais le dire de façon élégante, une pléthore de boutons dans ce véhicule qui sert absolument à rien. Il y a le mode de conduite, il y a les deux boutons N bleu, il y a un bouton Rêve pour qui fait l'ajustement du régime moteur.
Le Rêve Match.
Exactement.
Oui.
Mais les quatre boutons font exactement la même chose, mais pas tout à fait. Fait que t'as comme quatre modes, mettons, t'as trois modes sport, quatre modes de conduite, donc t'as sept modes de différents de comportement du véhicule, mais ils se choisissent pas tous à la même place. Puis la logique est pas évidente, fait que tu sais jamais où peser. C'est comme dans les Simpsons, il y a un épisode où Homer est consulté par ce qui est finalement son frère multimilliardaire pour concevoir la Homer, la première voiture conçue par le peuple.
Ça c'est un des
drôles. Puis lui il met des klaxons partout dans l'habitacle parce que tu sais jamais où peser quand il est fâché.
Et il met des porte-gobelets aussi partout.
Bon ben là, Hyundai a fait l'équivalent de ça mais pour les sportifs. Il y a des boutons partout pour mettre le mode sport, mais on sait jamais lequel on active.
Ah, ça pas qu'on amènera au Homer Simpson dans le show un matin.
Fait que c'est ça. Évidemment bon. Vous l'avez compris, ce modèle-là a des prétentions sportives qui ne sont peut-être pas tout à fait là, remplies comme on le voudrait. Évidemment, la voiture a vraiment l'air d'une sportive. Elle a le prix d'une voiture sportive. Il y a même le son d'une sportive qu'on peut ajuster. Là, qui
oui, absolument. Toi, t'as eu la
mode,
rouge.
Là.
Moi, j'ai eu l'espèce de bleu poudre
bleu
avec
orange,
les lignes oranges.
Ouais,
exactement. En tout cas, mes deux voisins, qui sont des enfants de 7 et 5 ans, la trouvaient extrêmement intéressante.
Ouais.
Mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit.
Ben, elle a tout sauf... En fait, moi, ce que j'ai écrit, c'est qu'elle a bien des affaires de sportive, mais c'est pas une vraie sportive.
Non.
C'est pas une GTI, c'est pas une WRX.
Non, c'est quelqu'un qui veut quelque chose d'un peu plus sportif.
C'est un peu anachronique aussi.
Mais
parce que,
ben c'est une mode qui va passer.
Ça aurait été le fun il y a 10 ans, cette auto-là.
Ouais. Tu sais, regarde, le Veloster N, il revient pas l'année prochaine.
Voilà, c'est un bel exemple.
Il reste le Kona N, mm-hmm. puis il reste le Elantra N. Il va rester combien de N quand on va finir? Ça, c'est la bonne question.
Ça va être bientôt N pour ne plus.
Ne plus. le N pour ne plus. Moi, de mon côté, je m'en vais dans quelque chose de 9999.
Oui, ça, moi, ça, je veux savoir parce que c'est vraiment un véhicule.
J'étais à Park City, au Utah, cette semaine.
J'ai fait un petit peu de parce qu'il y a des belles installations sportives, là.
Ah, je suis allé faire du vélo de montagne.
Oui.
J'en ai profité. J'ai loué un vélo de montagne parce qu'on avait un après-midi de libre parce qu'on n'avait pas d'avion qui revenait à Montréal à partir de l'après-midi du dimanche. Donc, on a quitté le lundi. Et mon dimanche après-midi était libre.
Alors, moi, je suis allé faire... déjà, ça c'est bien.
Oui, heureusement, mais de grâce, ne laissez pas vos bagages dans la soute d'un avion.
Pas
vous amenez votre bagage et vous le tenez précieusement entre vos mains. Écoute, j'ai vu la montagne de bagages à Dorval en revenant. Là.
Orphelin, en plus, ces bagages.
Ben, il n'y a plus personne pour les livrer. Moi, il y a un monsieur, écoute, il est 10h30 le soir, puis il y a 200 personnes au comptoir d'Air Canada. Tu te dis, mais ma foi du bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que j'ai parlé à quelqu'un dans ligne, comme ça. Il dit, monsieur, ça fait 3 semaines que je suis revenu d'un voyage en Europe et je n'ai toujours pas reçu mon bagage. Fait que là, je suis venu prendre une chance pour voir si je ne pourrais pas le trouver dans le tas. C'était littéralement ça, là, textuellement, ou à peu près ce qu'il m'a dit. Et non, c'est pas de la tarte. Cela dit, malgré un retard de 4 heures à l'aller, de 3 heures et demie au retour, on a fini par aller et revenir des deux. Mm-hmm. Et là-bas, ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'abord, le Lyriq, c'est le premier modèle 100% électrique chez Cadillac. Il y a eu la ELR. La ELR était une Volt habillée.
C'est une Volt trop chère.
C'est une Volt à 86 000 $.
C'est pas trop de banquette en arrière
c'est
non plus.
C'est ça, pas mal.
Ouais.
Ça, c'est 100% électrique. Pile Ultium, donc c'est le deuxième modèle Ultium parce que le Hummer EV était le premier. On a une bonne puissance. Nous, ce qu'on avait là-bas, c'était le modèle à propulsion.
Mm-hmm.
Un moteur, 340 chevaux, 325 livres-pieds de couple.
C'est déjà beaucoup.
Prix dollar canadien annoncé 68 798 $. C'est pas donné, mais si on compare avec ce qu'il y a de comparable sur le marché... un Genesis GV60 pour en nommer un.
Mm-hmm.
Un modèle comme le Tesla modèle Y, c'est moins cher que ces modèles-là, c'est plus grand, c'est mieux fait, c'est extrêmement bien fini. Et chose que je dois souligner, pour la première fois depuis que moi je suis journaliste automobile, Cadillac n'a pas été se servir dans la boîte à pièces Chevrolet, de Buick, ou à l'époque de Pontiac.
Ouais.
Et on a pris la peine de nous le dire, toutes les commandes, tous les boutons sont uniques à Cadillac. Et ça, c'est un grand pas en avant.
C'est quand même, oui.
Et ce qui est intéressant, on a un seul écran d'un tenant. Là. T'as 33 pouces d'écran. C'est un écran qui est configurable. On peut mettre une partie à gauche, une partie à droite, fermer la partie à gauche, tout mettre à droite, mettre à droite, à gauche, changer de couleur. Écoute, on a bisouné pendant une bonne demi-heure et vraiment, mais c'est très bien fait. C'est pas compliqué. Les boutons sont à gauche dans la commande. On peut les avoir aussi. Et on a gardé des boutons.
Ça,
donc,
c'est un truc, ouais.
La radio, c'est un bouton.
Okay.
Le chauffage, c'est un bouton. Alors ça, merci, merci, merci.
Ben oui.
Bon, je parlais d'anachronisme tantôt, la façon d'ouvrir le coffre à gaz, parce que on travaille beaucoup sur l'élégance. Donc, il n'y a pas de bouton apparent pour le coffre à gaz en dedans. Faut aller dans le menu, trouver le donné de bouton. Ça a pris 15 minutes. On a fini par l'ouvrir le coffre à gaz, mais ça, il aurait dû mettre un bouton. Puis tu sais, il n'y a pas de poignée de porte dehors. C'est une pression.
Ah oui, mais ça, c'est la mode comme, du jour. Là.
Oui, oui. Mm-hmm. Tu pèses dessus, puis ça fait comme touc, ça déclique et ça ouvre.
Mais je serais curieux de savoir, parce que ce bouton-là pour le coffre à gants, par exemple, ça soulève la question, tu sais, quand en ergonomie, là, c'est plus en informatique, mais quand tu penses à où est-ce que tu places les choses, c'est en fonction de l'utilisation qu'on en fait.
C'est clair.
Est-ce qu'on ouvre un coffre à gants souvent? C'est ça la question.
Peut-être pas, mais ils l'ouvriront jamais parce qu'ils trouveront pas le piton.
La première fois que tu as l'ouvré, ça peut prendre du temps.
Ah, c'est ça. Une fois que tu as compris. Donc, ça, c'est très bien. J'ai parlé de l'écran. Évidemment, on a beaucoup travaillé sur l'insonorisation. Bon, déjà un modèle électrique au départ, ça va bien. Tu as des roues de 20 pouces d'origine, donc qui viennent de série. Nous, on avait les roues de 22 pouces en option. Honnêtement, les roues de 22 pouces, pour le coup d'œil général, je les trouve plus belles. C'est 2 000 $ en option pour les roues et c'est à peu près la seule option. Tous les modèles arrivent équipés mur à mur. Pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de matériaux verts écologiques. On dit qu'on va travailler là-dessus. Donc, les cuirs, c'est du cuir. Les bois, c'est du bois. Là, c'est pas du bois d'eucalyptus qui pousse en 3 jours que tu peux remettre ou du bambou. Non, non. Pour le moment, on a travaillé avec des matériaux nobles. On a un bel espace au niveau de la conduite. On a des verres laminés. Donc, on a travaillé sur l'insonorisation. Ça, c'est intéressant. Point de vue autonomie. Ah, ça, c'est intéressant. La pile de base, en fait, qui est une pile de 100 kW, nous donne 502 km d'autonomie. Donc, ça, c'est intéressant. On va en avoir un peu moins qu'on a dit avec le modèle 4 roues motrices. On n'a pas dit combien de moins, mais généralement, c'est 35
km. On va être au-dessus de 450,
peu importe. Oui, puis, mais le deuxième moteur va amener la puissance autour de 460 chevaux. Fait que ça va être plus puissant. C'est pas un foudre de guerre, là. Pensez pas. C'est pas une Tesla là, qui vous arrache le toupette à chaque fois que vous avez
400 chevaux, c'est quand même...
Là, on est à 340.
À 300 et 460.
Mais c'est plus qu'il en faut, honnêtement. Ah oui. Puis moi, en tout cas, j'ai pas eu envie une seule fois de mettre le pied dedans quand j'avais ce véhicule-là. C'est un véhicule qui prône la zénitude, qui est très calme et très beau, disons-le. Moi, on a arrêté à différents endroits durant la journée et à chaque fois, il y a du monde qui venait nous voir. Hey, quoi ça, c'est beau. Puis il y a une madame en Mach-E qui était bien impressionné que ça soit pas plus cher que son char. Elle dit, ben, plus beau que le mien, ce char-là. J'ai dit, ben, c'est vous qui le dites, madame.
Ben, ça, c'est brillant d'avoir, parce que, tu sais, c'est évidemment, les premiers véhicules coûtent, c'est cher. Le Mach-E, c'est un bel exemple, mais d'avoir mis ça dans le catalogue de Cadillac.
Ouais.
Ça justifie le prix.
Ben,
plus
c'est
élevé.
Parce que, exact. D'une part, puis tu dis, ah, parce que, tu sais, ça avait mis ça chez Chevrolet.
Ben.
Là, le monde dirait, c'est cher. Chez Cadillac, tu vas le trouver moins cher.
Voilà.
On s'entend que c'est le même véhicule. Là, il n'y a aucune différence. Question de perception. Bon, pour ce qui est de la recharge, ce qu'on nous a dit, c'est que on a une puissance de recharge de 190 kW maximum.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'on peut récupérer 122 km d'autonomie en 10 minutes si on est sur la bonne prise de recharge, ou 314 km à peu près en 30 minutes. Donc, c'est quand même une bonne performance. La recharge domestique peut se faire via un module de 19,2 kW qui récupère, lui, 84 km d'autonomie en une heure, ou le 11,5. Donc, on a le choix. Je pense que le deuxième est une option par rapport au premier. Et en général, côté conduite, c'est extrêmement confortable. On a la conduite à une pédale. Le Super Cruise va être là, mais il n'était pas encore opérationnel dans les modèles à l'essai qu'on avait au lancement.
Mm-hmm.
Mais il va être là. Tout est là. On a déjà le vert, le bleu qui est sur le avec tous les boutons pour le faire. Il y a aussi aux palettes au volant, ils appellent ça le Regen on Demand. Donc, c'est freinage régénératif.
Chez GM, ouais.
Donc, on a trois niveaux de régénération. L'habitacle, je l'ai dit, est très silencieux. La puissance est bonne. C'est un modèle qui, à mon avis, va fonctionner très bien parce qu'on a réussi, au point de vue de l'esthétique, à faire quelque chose de très bon, de très beau.
Mm-hmm.
On a déjà 3300 modèles qui ont eu un dépôt et qui sont vendus au Canada.
Okay.
Ça veut dire que c'est la production de 2023.
Donc, il doit en avoir comme 2000 au Québec de ça?
Je ne sais même pas si on en a 2000. Je ne suis pas sûr qu'on en a autant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2023, oubliez ça, il n'y en a plus. Si
ah
vous
bon?
En commandez un demain matin, vous allez avoir un 2024. On a pris la peine de nous le dire au lancement. Moi, je recommanderais aux gens d'aller vers un rouage intégral qui est, à mon avis, mieux adapté à nos conditions routières. Une propulsion ici d'hiver, c'est so-so. Mais c'est un modèle qui a une grande beauté, qui est extrêmement bien fait, très silencieux. Et je pense que Cadillac a réussi quelque chose d'extrêmement bien. Et je pense que ça va être de la matière à réflexion pour Tesla. Parce que les gens de Cadillac nous l'ont dit, nous, on vise clairement le Tesla modèle Y avec ça.
Ben, tout le monde vise Tesla ces jours-ci.
Ben, mais oui, parce que c'est l'exemple à suivre.
Ouais.
Mais si on est capable d'en faire suffisamment pour fournir à la demande, je pense que Cadillac va avoir un produit extrêmement intéressant entre les mains.
Wow.
Alors voilà, c'était à peu près ça notre émission pour cette semaine.
Ouais.
Semaine prochaine, là, j'ai un Macan T entre les mains par les temps qui courent.
Oh, mon Dieu.
2023, parce que j'ai ça pour l'annuel. Il y a certains modèles qu'on doit rouler parce qu'il y a des petits changements dessus. Je vais vous parler de ça. J'ai une BMW i4 aussi,
okay.
Qui est en fin de compte l'équivalent de la... De la série 4, mais en version électrique.
Ben oui.
Donc, on pourra parler de ça. Puis, on vous donne rendez-vous. Probablement, on va voir la semaine prochaine. Si tout va bien, on devrait être là.
Ça dépend des vacances.
Ça dépend des vacances, mais moi, c'est à la fin août. Quand le livre va être fini, d'ici ce temps-là, j'ai rien. Claude Hébert, un gros merci derrière la console.
Ouais.
On remercie Léo Gravel, notre invité. Je vous invite d'ailleurs, 9-10 juillet prochain, je vous le rappelle. C'est l'Expo Beauté Mobile du côté de Fort-Chambly. Merci Alain d'avoir été là.
Merci Benoît.
Et on se reparle bientôt tout le monde.
Salut. Salut.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.